un beau bonjour. Bienvenue à l'émission Isabelle. Mon prénom, c'est Marie-Hélène. Je suis avec vous encore pour les deux prochaines semaines en pleine période des fêtes. Noël est passé, c'est fini. Comment s'est passé votre Noël? Vous avez eu du plaisir? Est-ce que la visite est toujours chez vous? Vous pourrez les sacrer dehors plus tard aujourd'hui, là, si vous êtes tannés. Parce qu'habituellement, rendu au 26 décembre, il y a des gens qui commencent à être un petit peu essoufflés de la frénésie de Noël. Moi, j'ai attrapé un rhume, je sais pas où, mais j'ai un petit rhume latent, là. C'est pas parce que j'ai vu beaucoup de monde, j'ai passé Noël plutôt tranquille. Aujourd'hui, c'est le 26 décembre, nous sommes mercredi. Des fois, dans le temps des fêtes, on oublie les journées. C'est bel et bien mercredi aujourd'hui et c'est le Boxing Day. Est-ce que vous allez fêter le Boxing Day en après-midi aujourd'hui? Irez-vous dépenser? D'ailleurs, est-ce qu'il vous reste de l'argent à dépenser? On va justement parler de vos finances. À la toute fin de l'émission, on reçoit François Gagnon qui va venir nous donner des trucs pour essayer de se mettre riche. Est-ce que c'est utopique ou c'est réaliste de vouloir devenir riche? Qu'est-ce que ça signifie pour François Gagnon être riche? Et commencez à penser, vous, à votre définition de la richesse. On vous posera la question en toute fin d'émission. Vos enfants ont peut-être reçu à Noël des tablettes, des téléphones intelligents. Est-ce que vous connaissez les risques d'une utilisation prolongée à ces écrans? Si votre enfant a 3 ans, est-ce qu'on devrait le laisser pendant 1 heure ou 2 avec une tablette? Est-ce que c'est toxique ou nocif pour lui? On va aborder le sujet un peu plus tard, en fait dans 1 heure précisément. Mais d'abord, pour la prochaine heure, on va parler de garde partagée. Vous savez, le temps des fêtes, c'est une période de réjouissance pour la plupart des gens, mais des fois, c'est un peu plus difficile à passer pour certaines personnes, notamment pour les gens qui ont vécu durant l'année une séparation ou un divorce. C'est toujours un petit peu compliqué, la garde partagée, tellement que juste avant Noël, le 22-23 décembre, sont les journées les plus occupées dans les palais de justice. Parce que c'est là où on a le plus de demandes concernant la garde des enfants durant la période des fêtes. Alors, pour parler du sujet durant la prochaine heure, nous recevons Maître Brigitte Alpin, qui est avocate en droit familial et médiatrice chez Alpin Gauthier Avocat. Bonjour, Brigitte.
Salut, Marie-Hélène.
Brigitte qui a quitté son feu de foyer pour venir nous voir ce matin, c'est très apprécié.
J'ai quitté mon sein d'honneur pour venir te voir, Marie-Hélène.
Mais c'est vraiment apprécié et je pense que les auditeurs vont aussi apprécier vos conseils. Merci. On aura aussi droit au conseil de Mélanie Dugas, qui est coach familial, membre du réseau Nanny Secours. Bonjour, Mélanie.
Bonjour.
Bon, quand je disais que c'est le 23 décembre, la journée, ou le 24, ce sont les journées les plus occupées dans les palais de justice, c'est vrai.
C'est pas faux, c'est pas faux. Même si je dirais qu'à partir du mois de septembre-octobre, on a déjà des négociations, des discussions, des échanges. Je dirais que il y a beaucoup de couples qui vont décider aussi de continuer leur route séparément et se disent on doit essayer malgré tout de continuer à avoir une collaboration pour que nos enfants puissent vivre les traditions familiales dans les deux familles.
Oui, mais là, les couples qui ont commencé à se parler en septembre et en octobre, qui anticipaient un peu la période des fêtes, sont dedans actuellement. On a souvent une volonté que ça se passe bien, mais quand on a la face dedans, là, puis que nos enfants partent le 23 décembre chez papa pour une semaine, c'est difficile à digérer parfois, là.
Absolument. La stratégie gagnante, c'est de procéder à des médiations. Hein? Le gouvernement investit énormément, 5 heures gratuites de médiation au début des ruptures et annuellement 2 heures et demie payées par le gouvernement. Et si ça prend un peu plus de temps, c'est 110 $ de l'heure divisé par 2, moins cher qu'un plombier, Marie-Hélène. Et ça évite que ça bloque. Ça bloque dans le temps des fêtes. C'est certain que, idéalement, on essaie de faire vivre aux enfants les traditions familiales dans les deux familles.
Ben oui, ben oui.
Ça veut dire le 24 avec une famille, le 25 avec l'autre, le 31 avec une famille, le premier avec l'autre, et le congé scolaire séparé en deux, de manière à ce que les enfants qui sont notre priorité, hein, même si on n'est plus ensemble, nos diamants bleus, c'est pas la maison qu'on a accumulée, le chalet, les fonds de pension. Nos diamants bleus, c'est nos petits. Donc, avoir la grandeur de dire, sais-tu, je t'aime moins, je t'aime plus, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, mais au-delà de tout, tu m'as fait des beaux enfants. Et être capable de les prioriser.
Mais ça, ce sont des choses qu'on est capable souvent de dire après coup. Là. Parce que Brigitte, elle intervient souvent avant. Et elle, Mélanie, elle est là avant, pendant et après.
Mélanie, elle est essentielle. On l'aime, Mélanie. Non,
donc, Mélanie, ce qu'on entend de la bouche de Brigitte, le discours de Brigitte, il est totalement juste et vrai. Mais oui. Est-ce que c'est ça qui s'applique véritablement dans la majorité des couples?
Ben pas toujours, évidemment. Ben là, j'ose espérer qu'il y en a plusieurs qui arrivent à le faire. Mais je pense qu'il faut effectivement être capable de prendre un recul, de faire une grande part des choses entre ce que je vis émotivement par rapport à ma rupture et ce que je vis dans mon rôle de parent. Et ça, ben, c'est deux chapeaux à porter, ce qui est pas toujours facile. Donc, moi, j'encourage beaucoup mes clients, soit moi personnellement, à aller vers la médiation parce que je fais pas du tout le rôle de la médiation de l'avocat, ou encore d'inviter les gens à aller chercher de l'aide.
Mais Brigitte, de la médiation, est-ce que tu en fais, toi?
Absolument. J'étais dans la première cohorte à être formée dans les années 97.
Bon,
moi, ça
années,
fait 35 ans que je m'occupe d'aider les familles à se réorganiser, se restructurer. J'appelle même plus ça des divorces. Je trouve ça trop déprimant. Le mot me déprime. Je dirais qu'on essaie de se réorganiser. Puis on en fait des centaines par année. Hein. On est quand même 10 sur 30 professionnels à faire du droit de la famille à travers le Québec. Fait que je vous dirais que mon cœur est toujours avec les enfants. C'est ça qui fait que je suis pas fiscaliste.
Donc quand,
c'est parce que j'aime les enfants.
Donc quand tu es avec les deux parents là,
oui,
qui sont sur le point de se séparer,
oui,
là, tu te mets dans la peau de l'enfant?
Est-ce
que tu leur dis comme ça?
En fait, je leur exprime qu'une vieille avocate comme moi, qui a 35 ans d'expérience, fait la médiation à des tarifs gouvernementaux qui sont extrêmement modestes parce que j'aime les enfants, parce que je veux les aider malgré leurs différences. Et je peux comprendre qu'un couple, après 10 ans, 5 ans, 20 ans, veuille se réorganiser, mais en préservant ce qu'ils ont de plus précieux. Puis je leur explique que ce qui me motive, c'est les enfants. D'ailleurs, j'ai une liste d'une cinquantaine de documents que je leur demande d'apporter. Parce que c'est pas parce qu'on fait une médiation qu'on fait ça les yeux fermés. Je veux des documents, je veux des preuves, je veux qu'on fasse ça sérieusement. Mais il y a un élément que je leur dis. Apportez-moi les photos de vos enfants. Je les mets ma table de travail
quand
tout le long
de la médiation. Quand tu disais les documents, je me disais les REER,
c'est tout ça qu'on demande.
Okay.
Tout ça qu'on demande.
Mais les photos des enfants.
Ce qui est le plus important pour moi, là, je mets une étoile à côté, c'est les photos de vos kids. Parce que c'est pour eux que moi, je trouve la motivation de passer ces heures-là à discuter avec des centaines de couples par année. Donc, même si je suis une avocate plaideuse, je dirige le département de mon équipe en droit de la famille, je continue à plaider. Mais c'est un peu comme ma crème fouettée sur mon cappuccino, la médiation.
Et le taux de réussite, ça ressemble à quoi?
La réussite en médiation est de plus de 8 dossiers sur 10 où il y a des ententes et que les gens continuent leur route sans avoir à se confronter devant les tribunaux. C'est merveilleux. On doit l'essayer. Moi, j'étais invitée à la commission parlementaire quand la médiation a été mise en place au niveau juridique et implantée. J'ai plaidé pour le fait qu'on n'oblige pas les gens à faire une médiation. Parce que c'est un processus volontaire et il faut respecter cet état de fait-là. Par contre, j'étais pour une session d'information obligatoire et c'est ce qui est.
Okay,
on oblige les familles, quand elles se séparent, à au moins s'asseoir pour entendre des professionnels expliquer l'utilité de la médiation. Et ils se laissent charmer parce que tu n'as rien à perdre. Ça vaut la peine. Et dans 8 cas sur 10, au moins, moi, je vous dirais que mon pourcentage est encore plus fort.
Oui, mais le pourcentage, tu sais, ton 8 sur 10,
oui,
là, est-ce que...
Il règle le dossier à l'amiable en médiation.
Je sais, Brigitte, oui, mais toi, tu ne peux pas voir les effets ensuite. C'est Mélanie qui est là après.
C'est grâce à elle si tout ça continue.
Non, mais je veux savoir si 8 sur 10, 8 couples sur 10 qui arriveraient à bien s'entendre pour le bien des enfants, est-ce que c'est réaliste? Mélanie.
Ben, quand les deux, il y a une belle volonté, puis j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idée d'amener la photo des enfants parce que entre dire ils sont ma priorité et faire en sorte qu'ils sont ma priorité, c'est deux mondes différents. Donc, de toujours avoir la photo-là, de se ramener à ça. Mais oui, je pense que les parents qui sont prêts à mettre la main à la pâte et à travailler vont y arriver. Moi, c'est ce que je vois dans mes clients. Ceux qui, des fois, ça devient difficile, c'est que malgré le fait qui disent aimer profondément leurs enfants, et là-dessus, je les contredis pas, les gestes qu'ils posent c'est pas pour le bien-être des enfants.
Mais admettons là qu'on est en médiation, là, que je suis avec mon conjoint qui va devenir mon ex, puis que moi le 24 décembre, là, c'est essentiel que mon enfant soit avec moi le 24, mm-hmm. puis que le papa veut aussi que son enfant soit avec lui le 24. Comment on finit par s'entendre là-dessus? Il faut qu'il y en ait un des deux qui cède. Qui va céder?
Mais ça là, c'est une réalité, Marie-Hélène, que tu viens de nous donner, qui est très exacte. Moi, la façon, évidemment, il y a plein d'options qu'on peut discuter avec les gens. Ce qui est merveilleux en médiation, c'est qu'ils vont créer un sur-mesure pour eux. Alors, ils vont pouvoir regarder c'est quoi leur priorité et faire en sorte de choisir aussi. Je dis toujours, faut choisir sa bataille. C'est sûr que chaque famille a ses manières. De dire, ben, regarde, dans la famille de maman, c'est le 24 que ça se passe, dans la famille de papa, c'est le 25. Puis on va continuer cette tradition-là. C'est une bonne idée, mais c'est un petit peu utopique parce qu'il y a les familles reconstituées. Alors après ça, maman, l'année prochaine, va être avec un pompier. Qui, lui, a d'autres horaires. Maison. Alors, c'est sûr que... Et papa, à un moment donné, va être avec une dame qui, elle, va avoir ses accès à d'autres moments.
Et si ça se trouve, c'est peut-être même déjà le cas, parce que des fois, quand on est rendu en médiation, c'est parce qu'il y a un des deux conjoints qui peut avoir rencontré quelqu'un.
Qui ont refait leur vie, absolument. Mais là, ça s'appelle les compromis. Puis moi, je dis toujours en médiation, si quelqu'un te demande quelque chose, si tu dis non, quand toi, tu vas poser une question par la suite qui va être très importante pour toi, une demande, peut-être que ça va être non. Je dis toujours, les oui attirent les oui, les non attirent les non. Et à la rigueur, on pourrait dire, si pour tout le monde, le 24, c'est important, ben faisons-le une année sur deux. Alors, une année, maman va avoir les enfants le 24.
Puis l'année suivante.
Et ça sera le 25. Ouais. Et pour le père en alternance, en fait, il y a des façons. Nous, là, je vous dirais que comme juriste, on a beaucoup d'idées. Mais avec l'aide des coachs comme Mélanie, je dirais que pour le long terme...
On peut mettre en application les affaires.
Absolument.
On va en reparler au retour de la pause. Ce que je comprends, c'est que être en couple, c'est fait de compromis, mais ne plus être en couple, c'est fait d'encore plus de compromis.
C'est encore plus compliqué, c'est certain.
Ouais. Et on aimerait vous entendre là-dessus. On aimerait entendre vos histoires de garde partagée. Est-ce que vous avez des questions, par exemple, à poser soit à Mélanie ou à Brigitte concernant une garde partagée qui est peut-être problématique chez vous? Si ça se passe bien, on veut aussi vous entendre. Donnez-nous vos trucs. Dites-nous comment ça se passe chez vous à la maison. Alors, les numéros de téléphone pour nous joindre en studio de Montréal, le 514-790-9850 et sans frais de perte au Québec, le 1-866-790-9850. À tout de suite. Alors, ne vous gênez pas, appelez-nous pour nous parler de la garde partagée chez vous. Et peut-être que votre témoignage, si ça se passe bien, va inspirer d'autres parents. Je disais en ouverture d'émission que ça peut être difficile pour certains. C'est la première fois où on n'a pas les enfants pour Noël, Caroline, ça brise le cœur. Alors, votre témoignage pourrait peut-être aider d'autres familles. Donc, les numéros de téléphone pour nous joindre, 514-790-9850, c'est le numéro pour Montréal. Sinon, de partout au Québec, sans frais, parce qu'on est diffusé un peu partout. Là, les gens de Gatineau, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et du Grand Montréal, on vous salue ce matin, ce 26 décembre. Donc, de partout au Québec, le 1-866-790-9850. Je disais que c'est peut-être le cœur dans l'eau que des parents ont passé leur premier Noël. Tu dois le vivre aussi, Mélanie. Tu dois avoir des témoignages de parents là, qui se disent comment je vais faire.
Ah oui,
la première fois où on n'a pas les enfants le 25 décembre au matin. Caroline, je l'ai vécu, moi. Ouais. C'est difficile.
Ben, la première année est difficile parce que c'est de faire tout la première fois différemment de ce qu'on a connu. Donc, oui. Puis je pense qu'à ce moment-là, il faut se préparer. Ça serait de se mettre la tête dans le sable que de dire, ben, je vais juste laisser la vague passer puis voir ce qui va possiblement arriver. Donc, sachant que peut-être le 25 au matin cette année, je vais être toute seule, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je choisis d'être toute seule? Est-ce que je choisis de m'entourer d'amis? Est-ce que je choisis de faire une activité? Mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que ça va arriver.
Donc, mais tu leur conseilles quoi? De partir? Est-ce que ce serait une bonne idée de partir en voyage?
Ça dépend. Ça dépend, mais on va regarder ensemble. Partir en voyage, c'est peut-être pas toujours possible parce que je les ai eus la veille, le 24.
Ouais, c'est ça l'affaire.
Ouais. Donc, mais tu sais, qu'est-ce que je faisais aussi avant? Parce que, avant la séparation, on avait des rituels, on avait des traditions. Donc, si, par exemple, le 25, ben, peut-être que j'avais l'habitude d'aller dans ma belle famille. Évidemment, j'irai pas cette année. Mais si le 25, j'allais quand même dans ma famille habituellement, mais pourquoi j'irais pas? En même temps, moi, c'est toujours une question d'équilibre. C'est de doser entre je m'accorde la permission, peut-être aujourd'hui aussi, de rester en pyjama puis pleurer. Je pense que c'est correct aussi.
Ouais, ouais,
c'est, ouais. Je m'accorde cette douceur-là puis cette permission-là de vivre ce que j'ai à vivre sans non plus basculer où est-ce que je reste pendant 2 semaines, par contre, en pyjama, rouler en boule à pleurer. Parce que vient un temps où est-ce que, autant comme les oui attirent les oui, les non attirent les non, ben rester dans ma... Moi, j'appelle ça souvent notre petite boule de pouette. Ouais. Là, ben on va rester dans notre petite bulle de pouette. Donc, des fois, c'est de se forcer à faire, bon, ben je vais y aller quand même. J'ai des amis qui m'ont invité, même si j'ai peut-être pas le goût. Puis peut-être que je vais avoir ne serait-ce qu'une heure de plaisir. Donc, je pense que c'est important de faire le dosage entre je fais quelque chose puis je me...
Et peut-être pour une des premières fois, faire des choses pour nous. Quand on a des enfants, souvent, on pense à eux d'abord et très peu à nous. Là.
Il y a toutes sortes de stratégies. Moi, j'essaie d'inciter ma clientèle à réfléchir parce que la planification intelligente des grands événements, de manière à ce que nos enfants conservent leurs acquis, continue à voir l'autre grand-maman dans l'autre famille, goûte à la dinde, aille à dans telle région du Québec parce que la famille de papa est là-bas. Donc, s'accommoder, voir est-ce que nos enfants ne perdent pas, mais augmentent leurs expériences et conservent leur acquis. Puis aussi, j'essaie de dire aux gens, si on planifie intelligemment, puis que oui, on prévoit les heures de retour, ben on pense à ceux qui s'organisent pas trop, qui vont d'une manière plus, entre guillemets, naturelle et qui peuvent être fort déçus. Parce que moi, au cabinet, on a une ligne d'urgence 24/7 pendant toute la période des fêtes. En fait, c'est toute l'année.
Okay, mais pourquoi?
On le dit parce qu'on a un avocat au bout de la ligne qui va répondre « Alpin Gauthier, bonjour » ou « Bonne nuit » ou « Bonsoir » parce qu'on répond 24/7.
Il y a des appels.
Il y a tellement d'appels, ça en fait pitié.
Je veux des exemples, Brigitte.
Des exemples, c'est une personne qui appelle, une dame en larmes qui dit « Écoutez, je vous connais pas ce bureau d'avocat-là, mais on m'a dit que vous répondiez tout le temps. Puis là, mon enfant était supposé d'être là hier à 9h, puis il est pas là, puis on est rendu 4h du matin, puis je dors pas. Puis qu'est-ce que je peux faire? » Ben évidemment, nous, on répond. Et on va intervenir parce qu'on est dans le domaine.
Et ça, même
alors,
si c'est pas vos, si c'est pas un client.
Okay. Absolument. On est capable d'avoir une relation professionnelle, de développer dans un téléphone avec une grille de questions, assez d'informations pour donner les meilleurs conseils à nos clients.
Dans le cas dont tu parles, Brigitte, la femme dont l'enfant devait être de retour la veille, puis l'enfant est pas là.
Oui.
Moi, j'appelle la police, là.
Pas tout de suite.
OK.
Oui, les policiers font un travail d'exception. Ouais. Mais on les dérange pas si on n'a pas fait nos devoirs avant. Alors, les devoirs, c'est avez-vous envoyé un texto au père? Peut-être que votre enfant se sentait pas bien, peut-être qu'il a eu besoin de prendre un peu de repos, puis peut-être que le père a décidé qu'il dormait tellement bien qu'on va y aller demain matin.
Mais il aurait été fait d'envoyer un texto à la maman, par exemple.
C'est certain, mais peut-être que l'enfant est malade, peut-être que l'enfant est à côté du bol de toilette parce qu'il y a, une infection, une grippe intestinale, on le sait pas.
Faut
toujours présumer de la bonne foi de l'autre parent. Donc, on essaie de communiquer par texto. Ça marche pas. On peut peut-être faire un petit téléphone. Il répond pas. On peut peut-être appeler la grand-maman chez qui il passait le réveillon pour savoir, écoute, j'ai pas de nouvelles. Y est-tu arrivé un accident? Est-ce que tu as des nouvelles? Alors, on peut vérifier, savoir s'il n'y a pas une situation d'urgence qui s'est développée. Si le papa dit, écoute, je suis vraiment désolée, on s'est tous endormis près du feu. Regarde, t'en fais pas, je vais venir dès qu'il va être réveillé, je lui donne un bon chocolat, un bon lait au chocolat, un bon croissant, puis je te l'amène après. Inquiète-toi pas, je suis désolée.
Mais de la part du parent qui attend, il n'y a pas toujours une mauvaise volonté. Des fois, c'est l'inquiétude, là.
Tout à fait.
Où est mon enfant, tu sais?
Non, je dis pas que la personne a pas lieu de paniquer. La seule chose, c'est qu'il y a un protocole. Il faut amener les gens à faire des vérifications de base.
Avant.
C'est sûr qu'un alerte Amber, un 25 au matin, c'est possible si on a une menace qui a été proférée, si le parent a envoyé un texto pour dire « Regarde, attends-les pas, tu leur verras plus. » C'est clair que nous devons, comme spécialistes, intervenir en donnant les meilleurs conseils.
Mais il y a des choses à faire.
Mais il y a un protocole de vérification dans le calme, la sagesse, et aussi parce que ce qu'on veut pas non plus, c'est débarquer avec la police chez la grand-mère puis que tout le monde est couché à côté du foyer dans des sleeping bags puis qu'ils ont fait comme une activité qui s'est terminée en douceur puis on n'a pas réaliser l'importance. Alors, l'idée dans tout ça, se concentrer sur le meilleur intérêt des petits et s'assurer que leur temps des fêtes ne revire pas au cauchemar pour rien.
Exact. Ben on a un papa au bout du fil qui je pense comprend bien ce dont tu parles, Brigitte, parce que lui, ça a l'air à bien se passer à la maison. Bonjour, Philippe.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous, c'est une séparation qui remonte à il y a longtemps?
Oui, à peu près 5 ans.
OK.
La première année, c'était plus compliqué pour diverses raisons. Mais en gardant dans l'esprit le bien-être de l'enfant, on a réussi à s'entendre. Et puis, même aujourd'hui, quasiment 5 ans plus tard, on réussit à passer le jour de l'an tous ensemble avec nos conjoints, nos nouveaux conjoints respectifs.
Bravo. Ça, c'est magique, Philippe. C'est magique. C'est ce que tout enfant rêve.
Fantasme d'enfant de parents divorcés. Ah, oui.
Exactement. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été facile. Mais c'est en gardant le bien-être de l'enfant prioritaire sur le reste qu'on réussit à des fois marcher sur son orgueil, à mettre les querelles de côté et puis passer du bon temps tout le monde ensemble.
Philippe, si on vous avait dit il y a 5 ans que vous alliez passer le jour de l'an avec votre ex puis les enfants, est-ce que vous y auriez cru?
Jamais. Jamais. C'est sûr, comme je vous dis, c'est un travail qui est de longue haleine, mais il y a moyen quand même de réussir à s'entendre, de mettre les querelles de côté.
Il y a puis, quel âge, votre enfant, Philippe? Il y a quel âge?
Il va avoir 10 ans.
Wow!
Va avoir 10 ans, puis là, justement, là, il est avec moi, et puis là, j'ai un autre enfant de 8 mois. Mais maintenant, comment ça se passe? J'entendais parler pour le 24, le 25. On s'est organisé, elle, le 24, ça se passe dans sa famille. Fait que moi, je le prends le 25, et puis là, c'est avec nous que ça se passe le 25. Et puis là, dernièrement, depuis quelques années, là, les jours d'an, on est capable de les passer ensemble. Mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui a été évident au début. Il faut piler un peu son orgueil puis mettre les querelles de côté.
Ben, en fait, c'est que dans une relation, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de parents aussi. Il faut mettre de côté l'histoire d'amour des fois, puis le mal, la douleur et la peine qu'on a pour ne penser qu'aux enfants. Là, puis, c'est pour ça que je disais tantôt que c'est parfois plus difficile au début puis que les choses peuvent aller de mieux en mieux. C'est un beau témoignage, Philippe. Ouais, merci vraiment. Beaucoup.
Est-ce que vous avez eu la chance de travailler en collaboration avec un médiateur pour que la situation s'adoucisse?
En fait, au début, pour la séparation, les termes de garde, tout ça, ça a été fait avec un médiateur. Mais après ça, ça s'est juste réglé par la communication entre moi et la mère pour dire, regarde, on va s'organiser pour que ça aille bien pour tout le monde. Puis c'est beaucoup mieux. Là, il n'y a plus de querelles. Bon, c'est sûr, des fois, il y a des petits désagréments. Mais en mettant les deux... d'autres, dans le fond, on réussit à discuter, communiquer, à régler les conflits, justement dans le bien-être de l'enfant.
Bien, Philippe, merci beaucoup de nous avoir appelés. Franchement, c'était très, très inspirant. Puis un beau temps des fêtes à vous, puis à votre petit garçon, puis au nouveau petit bébé.
Merci beaucoup à vous aussi.
Merci, au revoir. Il est 10h31, au retour, d'autres appels et d'autres trucs, des conseils de nos deux spécialistes. On parle de garde partagée aujourd'hui, c'est toujours un peu plus difficile durant la période des fêtes, mais là, voyez-vous, on a de belles histoires de garde partagée. Nos invités, Brigitte Alpin, avocate, et Mélanie Dugas, coach familial du réseau Nanny Secours. Au retour, donc, des appels, et si ça vous tente de réagir, si vous avez des questions à poser à nos spécialistes de Montréal, 514-790-9850 ou sans frais de partout au Québec, le 1-866-790-9850. Ah ben là, il s'est passé quelque chose d'assez drôle pendant la pause que je me dois de vous raconter parce que c'est pour le biais de l'émission. Brigitte, je l'appelle Brigitte Alpin depuis une demi-heure, mais elle me dit « Marie-Hélène, mon nom, c'est Gauthier. » Donc là, j'ai dit « Mais pourquoi moi, j'ai Alpin dans la tête? » Et là, elle m'expliquait que Alpin... C'était son ex.
Mon meilleur ami encore.
C'est donc drôle. C'est tout à fait dans le thème de l'émission. Alors, Alpin, c'était Gauthier Alpin, c'est ça?
C'est ça, c'est
mais
ça.
Mais là, je vais vous appeler Brigitte Gauthier pour le reste de l'émission. Je m'excuse, c'est
pas,
Brigitte.
C'est pas un problème grave.
Mais c'est très, très drôle quand même. Parce qu'on parle de couple, de séparation, puis des fois, il y a une belle entente. Dans votre cas, ça...
On s'est tout entendu en une heure.
Vraiment charmant. Ouais. Au bout du fil, Sébastien. Bonjour, Sébastien.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Le sujet de la garde partagée vous interpelle. Est-ce que chez vous, ça se passe bien ou pas?
Ça se passe relativement bien, je dirais. C'est que c'est sûr que pour le bien de l'enfant, lui, il se demande pourquoi il n'y a pas ses deux parents pour Noël. C'est toujours un événement familial qu'il aimerait ça avoir les deux ensemble. Mais je vous dirais que ça se passe relativement bien. C'est sûr que c'est un peu pour aller voir. C'est un peu du chamaillage pour les dates et tu vas l'avoir. Tu vas passer plus de temps avec. C'est un peu dur pour le temps de papa, maman. Mais il y a toujours moyen d'entrer en communication avec les deux pour avoir une belle entente.
Oui. Ben là, on sent de la part de Sébastien, en tout cas, une bonne volonté, mais il y a quelques petits bâtons dans les roues. Là, comment on parle aux enfants de ça, Mélanie, de la séparation? Comment on amène le sujet à la maison?
Ben, premièrement, c'est sûr qu'il faut tenir compte de l'âge des enfants, là, ça c'est clair, mais ceci étant dit, quand c'est possible, j'invite les deux parents à le faire ensemble. Quand ils sont capables de vraiment être en mesure de se détacher un peu, je trouve que c'est une belle façon de l'apporter parce que le message qu'on envoie aux enfants, c'est que même si papa et maman ne s'aiment plus comme des amoureux, mais on fait quand même un travail d'équipe comme parents. Et comme parents, nous, on va toujours être là pour vous. Donc, quand c'est possible, c'est ce que je prioriserais et vraiment faire la part des choses entre, papa et maman, on s'aime plus comme des amoureux, mais on vous aime vous. Puis oui, papa, ça va toujours être enlever... ton papa, puis maman va toujours être ta maman.
Ça pourrait enlever un peu de culpabilité.
Beaucoup de culpabilité.
Parce que les enfants
même.
Ressentent énormément de culpabilité lors d'une séparation. Vous le voyez aussi, là. On le voit, Brigitte. Là.
Écoutez, même dans les cas d'enfants adultes, on voit que avec les années, on se dit, ah, ils vont être raisonnables. Ils ont 17, ils ont 19, ils ont 21. Mais pour eux, les deux parents sont leurs piliers. Alors, on est en train de leur dire que, alors qu'eux avaient la chance d'avoir leurs parents ensemble, malgré qu'autour, dans les autres familles, il y avait beaucoup de séparation, eux se voyaient confortés parce qu'ils avaient leurs deux parents. Donc,
on défait les fondations de leur maison,
absolument,
la place où ils étaient bien.
T'sais. Absolument. Ouais. Et c'est pas pour rien qu'on voit beaucoup les parents qui vont conserver l'immeuble familial et qui vont sortir une semaine, laisser l'autre parent seul avec les enfants et rentrer la semaine d'après. Alors, ils font du co-nesting qu'on appelle.
Du co-nesting?
Oui, ça veut dire on se prend, on a peut-être chacun de notre côté quelqu'un d'autre chez qui on va vivre pendant une semaine et on va se partager la maison familiale pendant un certain temps.
Okay, pour que l'enfant s'habitue à vivre avec un des deux parents seul pendant
exactement,
la maison.
Exactement, et ne soit pas transporté. Que les enfants ne vivent pas le désavantage d'être un petit peu itinérant en deux maisons. Alors ça, on voit ça plus que moi. On voit ça beaucoup. Et c'est certain qu'il y en a aussi qui vont dire, ben garde, mettons, notre plus vieux a eu la chance de finir son secondaire en ayant une maison à proximité du collège ou de l'école du quartier. Ouais. Alors on va essayer de donner à l'autre enfant ce même avantage-là. Et certains parents vont faire ce sacrifice-là. Je vous dis pas que c'est facile, parce que c'est le parent qui devient itinérant.
Bien, facile ou viable, c'est peut-être pas viable pour tous les parents
c'est
non plus.
C'est pas pour tous les cas, mais c'est certain que les enfants vivent, disons, d'une manière un petit peu plus stable dans le même lieu de vie. Alors, ça prend une grandeur d'esprit aussi des parents, d'avoir à revenir dans la maison. Puis peut-être que l'autre parent n'a pas fait certaines tâches, et que là, il se dit, ouf, mon Dieu, c'est moi qui vais faire le lavage de tout le monde.
Le compromis, on revient au compromis tantôt.
Oui, mais en même temps, c'est une formule que l'on voit. Donc, la garde partagée, ça peut être les parents qui sortent, les enfants qui restent, mais c'est souvent les enfants qui se promènent d'une maison.
Oui, là, je viens de voir l'image de la valise. Moi, ça me brisait le cœur à chaque fois qu'elle partait avec sa petite valise.
C'est pour ça que peut-être avoir du linge partout,
ça peut aider, mais ça coûte cher.
Un petit peu plus cher.
Merci beaucoup de votre appel, Sébastien. On va maintenant aller parler à Jacinthe, pour qui ça se passe un petit peu moins bien. Là. Bonjour, Jacinthe.
Salut.
Oui, bon, est-ce que c'est récent, la séparation?
Non, ça fait 5 ans.
OK. Qu'est-ce qui est difficile?
Le père, il est fermé comme une huître.
C'est-à-dire?
J'ai le droit à un coup de téléphone par semaine. 3/4 du temps, il ne me répond pas. J'ai le droit à des contacts supervisés. Puis la plupart du temps, ils se présentent pas non plus.
Est-ce que les contacts ont été demandés suite à une audition devant la cour?
Oui.
De manière supervisée?
Oui.
Quel âge a l'enfant?
Ils ont dit que c'est 7 ans.
OK. Non, ça, c'est certain que vous vivez une période qui est très certainement sombre pour une maman.
Ça fait 5 ans, là.
C'est ça. Oui, mais des fois, les périodes sombres durent beaucoup de temps. Et c'est certain que pour reprendre une relation de confiance, quand la confiance a été brisée entre deux parents, il faut être patiente. Il faut être très patiente. Et aussi, il faut montrer l'amour qu'on a pour les enfants au-delà du conflit. C'est pas facile. C'est une situation extrêmement difficile.
Mais moi, si elle était ma cliente, ma question oui, que je l'inviterais à poser, c'est parce que ce que j'ai entendu, à moins que c'est moi qui ai mal compris, c'est que vous avez le droit à des contacts, des visites supervisées et qu'ils oui. ne se présentent pas, c'est ça?
Oui.
Alors moi, si c'était ma cliente, je fais pas du tout de droit, moi, avec mes clients, mais ma première question, c'est... Mais je la référerais à nouveau à son avocat pour comprendre qu'est-ce qui fait que...
Parce que légalement, il serait tenu de se présenter avec les enfants.
Écoutez, c'est sûr...
Oui? Ça va faire la troisième fois que je fais une ouverture de dossier à l'organisation pour avoir les contacts, puis monsieur se présente jamais.
La question, c'est sûr aussi, c'est que on a beau être un parent, que ce soit un père ou une mère, si le parent ne se présente pas, évidemment, on n'a pas, c'est un droit, ce n'est pas une obligation de se présenter. Alors, on ne peut pas obliger la personne à se rendre au lieu de supervision. Il y a une chose, par exemple, c'est que s'il y a absence de volonté et qu'on ne se manifeste pas, on se met dans une position où on peut perdre le droit. Parce que vous, à chaque fois, il faut que vous vous déplaciez pour montrer.
Oui, moi, j'habite à Montréal, puis eux sont à Plessisville, fait qu'on se rencontre à Victoriaville.
Ouais. C'est vraiment difficile comme situation.
Mais là, évidemment, on est comme dans les deux extrêmes, parce que ce que j'entends, c'est que le cas de Jacinthe est un cas particulièrement difficile et lourd. C'est là où on ne veut pas aller, évidemment. Écoutez, Jacinthe, on espère que les choses vont rentrer un peu dans l'ordre. On vous souhaite bon courage et plein d'amour autour de vous. Merci, Jacinthe, de votre appel.
Merci.
Au revoir. Bonne chance.
Caroline, c'est difficile. Ouais. Puis
c'est triste, mais le problème, c'est les bris de relations entre époux, épouse ou conjoint, conjointe qui amènent un très haut degré d'amertume. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, c'est des émotions, hein, Mélanie? C'est ça, votre département. Alors, c'est tout un travail de reconstruire les relations comme parents. Ouais.
C'est pour ça que, tu sais, je me dis, la première, deuxième, troisième année, ça peut être difficile. Ouais. Je repense au témoignage de Sébastien qui disait au début...
Très difficile.
C'est difficile au début. Ouais. Là, on va se dire la vraie affaire. Là, mais après 4 ou 5 ans, les choses peuvent commencer à rentrer dans l'ordre un petit peu.
Mais on ne peut pas obliger l'autre à avoir l'allure qu'il n'y avait pas dans la relation. Non, mais tu sais, on ne veut pas être méchant, là.
C'est intéressant.
Mais qu'est-ce que tu n'as pas? Tu peux-tu le donner par la suite?
Bon,
c'est délicat.
On aura pour vous des pistes de solutions au retour. Si vous êtes là-dedans, si vous voulez nous raconter votre histoire, que ça se passe bien ou pas, 514-790-9850. De partout au Québec, sans frais, le 1-866-790-9850. Alors, encore pour une dizaine de minutes, on parle de garde de partagée. On voulait aborder le sujet parce que durant la période des fêtes, il y a peut-être beaucoup de gens à l'écoute qui le vivent. C'est un couple sur deux là qui va se terminer. C'est ça, hein, une histoire de...
Tout à fait.
Qui va vivre un divorce. Alors, vous imaginez le nombre d'enfants qui en sont les principales victimes. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour nous dire que ça se passe bien. Chez d'autres, on a eu le témoignage de Jacinthe, c'est plus difficile. Et on a au bout du fil Marc, qui lui travaille avec des familles ou avec les enfants, je crois. Bonjour Marc.
Oui,
Papa
bonjour.
En action. Qu'est-ce que c'est Papa en action, Marc?
Alors, nous sommes un organisme à but non lucratif qui œuvrons partout au Québec, qui regroupons des pères séparés ou non, également des parents isolés. On a beaucoup de mères monoparentales. Notre message, c'est les pères, nous sommes des parents à part entière et nous vivons présentement dans un système où qui est pas encore ajusté à la réalité québécoise, où on parle de garde partagée, où les gens croient que c'est dans la loi lorsqu'on se sépare qu'il y a une garde partagée. Et ce n'est pas le cas. On milite, nous également, pour un projet de loi, comme il existe déjà dans les pays scandinaves, en Belgique, même aux États-Unis, dans plusieurs États américains, comme le Texas et le Kentucky, qui sont réputés des États redneck, où les femmes ont pris position pour les gardes partagées à la séparation pour deux parents compétents qui veulent s'occuper de leurs enfants et qui habitent à des distances raisonnables.
OK, Marc, donc, c'est pas... oui? Ce que vous dites, en gros, c'est que les pères sont encore mal représentés dans le système de justice ici, là. C'est ce que j'entends.
C'est-à-dire que 68 à 77 % des jugements de garde, qu'on appelle garde exclusive, donnent la garde à maman et on rend les pères visiteurs de leur enfant avec la fameuse formule un week-end sur deux, ou pour les bons papas, un week-end sur deux étendu.
Okay.
Dans 5 à 10 % des cas, dépendamment des études, 96 % des hommes, les payeurs de pension alimentaire sont des hommes.
Marc, j'aimerais entendre Brigitte là-dessus, là, parce que Brigitte semble pas être d'accord avec vous. Là.
Mais c'est-à-dire que j'admire beaucoup, beaucoup la mission de l'organisme. Je trouve que c'est important. Moi, je suis pour les traitements égaux entre les parents. Donc, il y a une chose, par contre, que j'aimerais juste partager, c'est que, et il faut retenir que même quand il y a des gardes partagées, ce qui existe beaucoup suite aux discussions en médiation, les parents sont souvent intéressés à ce que les enfants aient une présence massive avec l'autre parent parce qu'ils veulent traiter l'autre parent comme il voudrait être traité lui-même ou elle-même. Mais il y a une chose qu'il faut pas mélanger, c'est que admettons qu'on a des bons parents, ils veulent tous les deux que l'enfant vive l'expérience de proximité avec son autre parent. Une garde partagée, ça peut être 40-60. Donc, ça peut être 4 jours avec un parent.
Mais pourquoi on parle pas de 50-50?
Parce que 50-50, c'est pas toujours possible. Des fois, il y a un parent qui va travailler, qui va être moins disponible. Mais il y a une chose qu'il faut retenir aussi, c'est que tout le monde n'a pas le même revenu. Alors qu'un homme paye une pension alimentaire, qu'on voit ça beaucoup, c'est que, encore, dans notre société, on voit des parents qui ont des revenus qui ne sont pas égaux. Si papa gagne 100 000, maman gagne 50 000, ils ont un enfant. Monsieur va payer une pension alimentaire à madame, c'est normal, ils n'ont pas le même revenu. Et il y a des formulaires de fixation de pension alimentaire qui doivent être remplis. Et les pensions alimentaires doivent être payées, c'est la loi, c'est d'ordre public aussi.
Hein? Mais Marc, qu'est-ce qui vous dérange, vous, là?
Ouais. Ben, c'est parce que présentement, on se retrouve où les statistiques sont en bas de 27 ans, les femmes gagnent plus. 65 % des femmes en médecine, mon ex-femme, moi, elle est médecin spécialiste, et ils gagnent plus que nous. Après 27 ans, oui, on envoie que le message que c'est la mère qui reste à la maison. Ils ont des emplois. Vous avez des femmes, des emplois qui ont en général des conditions de travail, comme moi, je suis enseignant, qui favorisent les congés de paternité. J'ai pris 5 ans, moi, pour mon fils, j'ai deux enfants de deux mères différentes qui est associé à pénicité dans une grande firme. 5 ans à temps plein. Et après ça, on se sépare et on vient monnayer la garde de l'enfant parce que c'est au plus fort la poche parce qu'on sait que ça va être la capacité de se représenter en cours avec des avocats alors qu'on sait que les hommes ne demandent pas d'aide, ne sont pas entourés, se suicident 5 fois plus, deviennent alcooliques, itinérants. On en a plein d'exemples de papas.
Ouais.
Il y a un malaise dans la société présentement où des mères vont s'entendre en médiation et là, ils vont s'entendre pour le fameux 40% dont vous parliez tout à l'heure. Ben, tu peux le voir tant que tu veux, mais tant que ça dépasse pas 39%. Parce que la pension alimentaire il y a une question d'argent dans tout ça, parce qu'absolument, il y a une pension à payer pour un parent qui ne veut pas s'occuper. Mais là, présentement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déséquilibre dans notre système où les pères n'arrivent pas à se faire entendre avec des juges tous différents les uns des autres, avec des opinions différentes. On a des juges ultra modernes et des juges sans vouloir porter d'opinion négative.
Ouais.
Où la dame a 80 ans. J'ai jamais vu un homme changer une couche de sa vie. Au palais de justice de Longueuil, ici,
Marc,
de la famille, il n'y a même pas de salle à langer dans la salle des hommes. pour chercher ouais. son bébé.
Mais Marc,
est-ce que c'est normal en 2018?
Ouais, mais écoutez, je vais devoir vous arrêter parce que malheureusement, on termine dans quelques minutes, mais je comprends votre point de vue. Puis ce que j'entends dans le discours de Marc, Brigitte, il y a sûrement plein de pères qui se reconnaissent là-dedans parce que c'est vrai qu'on a encore du travail à faire.
Je dirais que l'égalité des sexes, c'est un combat de tous les jours, autant pour les hommes que pour
dans
les femmes.
Dans d'autres secteurs, on
mais
le voit pour les femmes.
Ouais. Oui, et d'avoir des enfants qui sont le centre des préoccupations de deux parents, je pense qu'avoir de l'amour qui vient du papa, de la maman, c'est ce qui va faire des enfants. D'ailleurs, les grands spécialistes nous disent une présence massive des deux parents est très, très souhaitable pour un bon développement.
Mais ça, Brigitte, on l'a répété plusieurs fois aujourd'hui, mm-hmm. mais c'est sûr que quand à la base, il y a une chicane entre les deux concernant l'argent, concernant le partage des biens, ça va être difficile ensuite de s'entendre pour la garde des enfants. Là, t'sais.
Oui, mais moi, j'ai envie de dire aussi, puis là, peut-être que je vais en choquer certains, il faut faire une part des choses, je pense, entre l'égalité pour les parents et ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Donc, de toujours chercher à ce que ça soit le même nombre d'heures chez l'un, le même nombre d'heures chez l'autre, toujours, toujours. Mais ça, c'est pour les adultes.
Ça, c'est
pas pour
c'est
les
utopique,
enfants.
Mais oui, OK. Ouais.
Et des fois, de mettre l'enfant au cœur des priorités, ça veut dire que dans certains cas, ça sera peut-être pas 50-50. Mais ça veut pas dire que je vais moins prendre la présence de papa ou moins prendre la présence de maman. Et quand les parents arrivent à faire ça, je trouve qu'on arrive à de très beaux résultats.
Bon, Brigitte, il nous reste deux ou trois petites minutes là. Je veux parler de l'importance de la discussion parce que tout se passe là, c'est dans la mm-hmm. communication des parents.
Tout à fait.
Donc ça peut se faire en médiation.
Oui, on la a plupart des beaux couples véhicules. Oui. Ceux qui choisissent la médiation sont souvent gagnant-gagnant, s'en sortent avec une entente faite sur mesure qui va privilégier le bon développement des enfants. Puis pendant que les parents chicanent pas, ils investissent tout de leur argent, leur amour et leur temps, non pas dans une préparation de procès, mais dans l'évolution puis le meilleur intérêt de leur enfant. Ensuite, il y a les conférences de règlement à l'amiable. Donc, quand un parent décide de s'adresser aux tribunaux, d'y aller d'une manière un petit peu plus juridique, l'autre parent peut toujours demander à ce que le dossier soit référé à un juge
qui va devenir un médiateur. Ouais.
Absolument. Et c'est un service extraordinaire qu'offre la Cour supérieure. Et on a, en dedans de quelques semaines, quelques mois maximum, un juge, qui pourrait être même un juge à la retraite, qui revient prêter l'épaule à la roue pour aider le système. Et en dedans d'une journée, les parents sont autour d'une table avec l'avantage d'avoir un juge de grande expérience devant eux qui va les aider à mieux s'entendre, mieux discuter, mieux trouver des solutions ensemble. Et les gens sont accompagnés par leurs avocats. Alors, c'est un petit peu comme une solution parfaite. Quand le dossier est entamé devant les tribunaux, on peut même faire en sorte que tout ça se termine par une belle entente et qu'un juge ne vienne que signer l'entente qui aurait été construite par les parents, aidée par le système.
Bon. Il nous reste une petite minute. Je veux terminer avec une note d'espoir. Est-ce que, Mélanie, il est fréquent qu'on voit, avec les années qui passent, des familles, je pense au témoignage de Sébastien tantôt qui disait qu'on fête le jour de l'an, tout le monde ensemble. Est-ce que tu vois ça de plus en plus, toi, dans ta pratique de
vraiment,
coach familial?
Oui, vraiment, les parents, ils arrivent puis de plus en plus, ils viennent chercher de l'aide. Donc, quand on travaille des bonnes stratégies de communication de base, qu'on travaille des stratégies de gestion des émotions, moi, je vise pas avec les clients de dire il faut absolument qu'on devienne l'ami de l'autre parent. Mais quand on peut au moins avoir une grande base de respect, d'avoir des parents qui vont se présenter tous les deux à des fêtes d'activités, des anniversaires, en effet, il y a des beaux succès.
Parce que des fois, on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir chez l'enfant. Ça peut
être... c'est le plus beau cadeau à donner à un enfant que de fêter son anniversaire tout le monde ensemble. Une fois par année, c'est sa fête, c'est la fête.
Ben, merci beaucoup à vous deux de vous être déplacés. Brigitte Gauthier, avocate en droit familial et médiatrice chez Alpin Gauthier. Avocat, oui, passionné. Merci. Et Mélanie Dugas, coach familial, membre du réseau Nanny Secours. Merci beaucoup à toutes les deux. Au retour, on va parler des écrans et de vos enfants.
Oh, je suis tellement...